Bonjour, Morgane sur CFM dans l'émission « Les hommes sont des animaux comme les autres », émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Ce mois-ci, je vous propose un entretien avec Christelle Méouchi, éducateur canin dans le Vaucluse. Ensuite, je vous présenterai la plante du mois, la consoude officinale et ses applications variées.
Et puis ils reviendront, ces dieux d'autrefois. J'ai qu'à rester à flâner en attendant la foi où l'espoir revient du large, comme on dit, comme on dit. Je fais jamais rien comme on dit. Jeune, faut que je boive, trouver la dernière cave qui me finira. Du souvenir à la poussière, il n'y a jamais qu'un seuil. Quand on se croit solitaire et qu'on se retrouve seul, effacé, elle, son baiser, c'était moi. Et à cet arrière-goût d'autrefois, juste pour voir s'il y a encore de quoi en faire toute une histoire.
Aujourd'hui, je vous propose un partage avec Christelle Méouchi, fondatrice d'Animaneo, donc vente d'accessoires en ligne pour animaux de compagnie, qui est aussi éducatrice canine et compétitrice dans la discipline de l'obéissance. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Donc on va parler aujourd'hui de l'adoption d'un chien, comment le choisir, les bases de l'éducation et les exercices qu'on peut faire avec lui. Donc la France, on sait que c'est un pays où il y a énormément d'animaux de compagnie par rapport aux autres pays d'Europe, mais aussi donc forcément il y a beaucoup d'abandon. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ce niveau-là ?
Alors, on a observé ces dernières années une recrudescence du nombre de chats en France qui viennent justement remplacer les chiens. Oui. Donc il y a de moins en moins de chiens, de plus en plus de chats. En revanche, ce qu'on a pu observer également, c'est que les gens mûrissent beaucoup plus leur choix pour prendre un chien. Donc oui. les maîtres se responsabilisent. on va voir justement des gens qui vont bien peser les pour et les contre, les contraintes, le budget, etc. Ce que représente en fait le chien. On a également noté que les nouveaux maîtres vont également de plus en plus à des cours d'éducation.
Ah oui.
Alors il y a l'école des chiots qui est bien présent maintenant dans les clubs français,
oui.
Mais également des éducateurs pour régler les problèmes plutôt que d'abandonner le chien. Alors c'est vrai qu'on a toujours, et il y aura toujours une part de maîtres qui, au premier problème rencontré, aux premières vacances où ils ne savent pas où mettre le chien, vont vouloir s'en séparer. Et vont les abandonner.
Ouais.
Malgré tout, y a de l'espoir, puisqu'on voit quand même que les clubs canins ne désemplissent pas,
ouais.
et les gens partagent de plus en plus de relationnels avec leurs chiens.
Ouais, bon, ça, c'est déjà un bon point.
Tout à fait.
Et donc, ouais, quand on veut adopter un chien, justement, quelles sont les erreurs peut-être à ne pas faire pour le choix du chien et de l'endroit où on va aller le chercher ?
Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous au moment où vous voulez prendre un chien. Vous avez par exemple soit des petites annonces dans les magazines ou sur le net. Vous avez aussi la SPA, bien sûr, d'aller vous renseigner s'il n'y a pas un petit compagnon à qui vous pourriez offrir un foyer d'accueil. Vous avez également les élevages familiales ou les élevages professionnels. Alors, moi, j'ai fait une mauvaise expérience, malheureusement, qui, bon, aura été... bien récupéré, on va dire.
Ouais.
Il faut être très très vigilant vraiment sur l'endroit où on prend son chien. Par exemple, moi j'ai pris ma petite berger australienne dans un élevage où la première fois que j'étais allée, c'était propre, etc. Mm-hmm. Et en fait, il s'est avéré que l'élevage n'était pas forcément de grande qualité.
Ouais.
Je me suis retrouvée avec une chienne que j'ai dû faire opérer à 2 mois à cœur ouvert.
Oui, quand même.
Oui.
C'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Elle avait une tare génétique qui venait de son père. Donc ça ne veut pas non plus dire parce que c'est un élevage professionnel que c'est...
C'est forcément bien. Ouais.
Voilà. Maintenant, il y a de très très bons éleveurs. J'ai un deuxième chien que j'ai pris chez un autre éleveur et ça se passe super bien.
Ouais.
Donc il faut faire vraiment la part des choses et il faut surtout bien se renseigner sur l'endroit où vous le prenez.
Ouais.
Aussi bien sur l'environnement. C'est-à-dire comment sont gérés les chiots? Est-ce qu'ils sont suffisamment stimulés? Est-ce qu'ils restent avec leur mère? Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce que c'est propre?
Oui.
C'est vraiment très très important pour derrière vous ne pas vous retrouver avec un chien qui peut avoir des problèmes comportementaux. Voilà.
Et donc au niveau des animaleries, est-ce qu'on pourrait en dire peut-être un mot? Parce que bon, il y a pas mal de gens des fois qui veulent un petit chiot mignon et qui vont craquer dans une animalerie.
Oui, alors je rappelle que le chiot n'est pas un cadeau. Moi, les animaleries, je ne suis pas entièrement favorable. Je préfère qu'on privilégie les élevages familiales ou les élevages professionnels qui, eux, font ça vraiment...
Avec le dollar, peut-être.
Oui, mais même, ils vont entretenir et faire bénéficier aux chiens français. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les meilleurs pour faire des chiens de qualité aussi bien sur le comportement que sur les standards. Après, effectivement, on n'est pas obligé de se lancer dans des expositions de beauté, etc.
Oui.
Mais de l'autre côté, vous aurez un chien qui sera bien dans sa tête et avec qui vous passerez des super bons moments.
Et puis ça évite peut-être aussi les trafics des pays de l'Est et tout ça qui se font au niveau de certaines animaleries, des fois, où il y a des choses un peu...
Tout à fait. On a eu d'ailleurs le cas dans la région du Vaucluse où il y a eu un démantèlement justement de ce type de réseau, des chiens, des chiots qui arrivent par camion, qui ne sont pas forcément bien soignés et qui ne sont pas bien traités, pas bien.
Ouais.
Tout ce qui va faire que le chien pourrait devenir déséquilibré plus tard. Donc il faut vraiment. Une fois que vous avez fait votre choix, c'est que vous êtes sûr, c'est que vous y avez bien réfléchi.
Ouais, donc vous
dans
ces
cas-là, voilà, prenez un chien de qualité. Ok, vous allez avoir des prix qui peuvent aller de 800 à 2000 euros pour un chiot. Seulement, si vous savez que vous avez un bon chien qui est bien dans sa tête, c'est pour 15 ans, c'est pour 20 ans que vous avez votre chien. Et il y a un vrai travail qui est effectué par les éleveurs derrière sur la qualité du chien et aussi sur le choix du chien. Ouais. Par exemple, le dernier chien que j'ai pris, l'éleveur m'a bien fait savoir que si dans la portée, selon lui, un chiot ne correspondait pas à ce que je recherchais, eh bien, on attendrait sur une prochaine portée pour pour que je puisse l'acheter. Donc, c'est qu'il y a un vrai travail qui est effectué par ces éleveurs de qualité entre ce qu'attend le maître et ce qu'est le chien en réalité.
Tout à fait.
Et c'est très, très important.
Et ouais.
Vraiment. Donc oui, pour finir sur le choix de l'éleveur, de la SPA ou des petites annonces, renseignez-vous bien sur la personne qui vous vend le chien. Cherchez dans les forums, cherchez vraiment sur tous les endroits où vous pourrez, sur le net, par le réseau, par les contacts, s'il y a eu des échos et des retours sur ces élevages-là.
Oui. Et bouche à oreille peut-être
tout
aussi.
À fait, tout à fait. C'est vraiment très important de rencontrer des gens qui ont eu des chiens ou qui ont eu des expériences, ou même sur le net, de discuter avec eux pour qu'ils puissent vous guider même sur certains choix d'élevage. À côté de ça, vous avez aussi d'autres choses, et pour les élevages professionnels, ils y sont tenus, c'est de vous délivrer aussi les pédigrés des parents et de voir si normalement tous les chiens sont testés sur l'état génétique, les allergies médicamenteuses, la dysplasie, etc.
Ouais.
Donc c'est très important, n'hésitez pas à demander ces documents, n'ayez pas honte de demander à l'éleveur le document et que vous voulez le voir en face.
Voilà, très bien. Et donc qu'est-ce qu'on aurait comme règle de base à mettre en place avec son chien? Voilà, on a trouvé le chien, on vient de l'adopter. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme règle au départ?
Alors, moi, je serais pour faire passer un texte qui obligerait tous les maîtres de chiens à passer par au moins un mois à la case éducation.
Ouais.
C'est primordial aujourd'hui pour avoir un chien qui se comporte bien en société et également parce que, même pour vous, pas que en société, mais même pour vous, que ce soit serein dans votre foyer, d'avoir un chien qui soit bien éduqué, ou qui ait au moins les bases. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas aller plus loin dans l'éducation ou faire du sport avec votre chien, d'avoir au moins des bases de règles de vie dans la maison. Donc ces petites bases, les exercices de base, il y en a, on va en citer réellement 4, 5 aujourd'hui, qui sont très importantes. Le tout premier, et ça c'est vraiment primordial, ça peut sauver la vie de votre chien, c'est le stop. Donc le stop c'est quoi? C'est quand votre chien fait une action, vous voulez arrêter immédiatement. Une petite anecdote, j'étais partie me promener avec ma chienne quand elle était plus jeune, et puis elle a vu un couple adossé à une voiture de l'autre côté de la rue, elle a traversé en courant la rue pour aller leur dire bonjour. Bon, ben là, si j'avais eu le stop, j'aurais pu éviter, par exemple, qu'elle se fasse renverser par une voiture. Dieu merci, aucune voiture n'était dans le coin quand ça s'est produit.
Oui.
Mais on a eu le cas, dans le club dans lequel je suis, de gens qui ont perdu leur chien à cause de ça, heurtés par un véhicule, alors que si on avait réussi à instaurer le stop, donc de faire cesser toute activité au chien, qui s'arrête et qui se retourne vers son maître, ça aurait pu lui sauver la vie. Donc c'est très important de mettre au moins ça en place. Bon, ensuite, on a évidemment le rappel. Le rappel, c'est le deuxième point important. Hein. C'est un peu la maîtrise du chien. Là, vous allez vous promener, vous ne voulez pas qu'il saute sur tous les joggers, les vélos, sur les gens, etc. Vous mettez en place le rappel. Donc ça, c'est pareil, c'est très, très utile. Et ça vous permet de pouvoir vous promener sereinement avec un chien sans laisse, un peu n'importe où. Ensuite, moi, j'en viendrai au pas bouger. Donc ça, c'est un exercice qui est très utile aussi pour que vous puissiez aller, par exemple, au restaurant avec votre chien. Ou pour aller dans des endroits où le chien doit se tenir calme, dans un train. Vous devez prendre le train demain avec votre chien, qu'il soit calme, tranquille, et qu'il ne se mette pas à jouer dans tous les sens. Bon, bah, cet exercice-là est aussi un des exercices essentiels à avoir. Enfin, il y a le assis et le couché. Deux positions de base, ce qu'on appelle le assis, qui est la position de base, et le couché. Qui ça sont importants, ça peut vous permettre aussi justement de calmer le chien.
D'accord.
C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où le chien est surexcité, eh ben vous allez le mettre au coucher tranquillement, il va se calmer, il va redescendre en pression. Voilà, donc ça c'est des exercices qui peuvent être très très vite acquis devant la gamelle par exemple, avant de lui donner le repas, eh ben vous lui faites un assis, un coucher. Et comme ça, il intégrera ça très rapidement, croyez-moi. Avec la nourriture, ça marche vite.
Voilà.
Pour ce qui est des quelques ordres de base qui sont, à mon avis, essentiels à avoir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce serait vraiment bien que tous les maîtres qui aient un chien, avant d'avoir des problèmes, aillent déjà se renseigner auprès d'un éducateur canin et aillent faire quelques séances. Ne serait-ce que pour même en apprendre un peu plus sur votre chien. C'est pas uniquement apprendre à donner des ordres à son chien. C'est aussi apprendre à comprendre son chien. Et ça, c'est primordial. Pour une bonne entente et pour un bon relationnel.
Et oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme petits exercices avec son chien après, ou comme activité, justement? Qu'est-ce qu'on a, si par exemple, on veut faire un peu partager des choses avec lui? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, vous n'avez que l'embarras du choix. Parce qu'effectivement, ce qui est sympathique pour ceux qui veulent, c'est renforcer votre relation maître-chien par l'activité et la pratique d'un sport canin.
Oui.
Donc, dans les sports canins, il y en a pour tous les goûts. Alors, on a bien sûr l'agility qui est probablement le plus connu. Ouais. Ça, c'est évident. Et c'est aussi parce que c'est celui qui est le plus ludique pour le chien. Ouais. On voit les chiens qui jouent, qui s'amusent. C'est vraiment un sport qui est très agréable pour le maître et pour le chien. Bon, le maître doit être en bonne santé parce qu'il faut bien courir.
Il faut courir aussi.
Voilà.
Ça fait du sport pour les deux.
Exactement. Après, vous avez aussi le ring. Donc, c'est tout ce qui va être le mordant. Donc c'est souvent les disciplines qui vont être utilisées par exemple pour dresser un maître chien, enfin pour dresser un maître chien, pour dresser le couple maître chien. On a également l'obéissance, on va avoir la recherche utilitaire, l'obérythmé, donc qui est basé sur de l'obéissance mais en musique, on va avoir le flyball, le RCI, le canicross, donc ça va être faire du jogging avec son chien, le mondioring, le pistage, campagne, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Après, il faut simplement trouver la discipline dans laquelle le chien se sent bien.
Et oui, c'est ça. Faut que ça lui plaise aussi, pas
qu'à nous. C'est important. Alors, il faut que ça lui plaise et puis il faut qu'il ait aussi des capacités.
Oui.
On peut très bien, nous, adorer le pistage et le chien, ça peut l'amuser. Mais peut-être qu'il a des limites. Et il faut aussi savoir respecter ses limites.
C'est sûr.
Tout, voilà. C'est important de trouver une activité qui puisse correspondre aux deux.
À tout moment.
Ce qui vous permettra, une fois encore, de non seulement de mieux maîtriser votre chien, mais aussi de lier ce lien qui est vraiment privilégié entre vous et votre chien.
Et pour faire une bonne relation stable et solide.
Exactement, exactement.
Et donc, est-ce qu'on aurait quelques conseils pour nos auditeurs pour terminer?
Oui, alors moi j'aurais envie de vous parler surtout des signaux d'apaisement. Ces conseils-là, ils seront utilisés plus pour vous amuser et pour comprendre votre chien.
Ouais.
Donc les signaux d'apaisement, il y a des travaux qui ont été faits par Turid Rugas, une éducatrice canine norvégienne, à qui justement on doit un bouquin qui s'appelle Les signaux d'apaisement.
Oui.
Donc, elle est connue mondialement pour ses travaux sur ce sujet. C'est en fait, qu'est-ce que sont les signaux d'apaisement? Ça va être des comportements que le chien va adopter dans des situations stressantes.
Mm-hmm.
Donc, quand il est dans une situation de stress, le chien va soit vouloir se calmer lui-même, et donc va envoyer ses signaux, soit vouloir calmer la personne qui est face à lui.
Donc nous, en l'occurrence.
Ça peut être nous. Et très souvent, c'est pour calmer le maître.
D'accord.
C'est-à-dire que si nous, on va stresser, parce qu'il faut savoir quand même que le chien, même si vous pouvez pas en parler à votre chien, vous vous comportez d'une façon que le chien détecte votre stress. Il va détecter vos états d'âme, le chien.
Ouais.
Et donc, il va forcément essayer de vous calmer. Donc, il va utiliser des signaux pour vous dire « Non, c'est pas grave, tout va bien. »
Et nous, d'habitude, on comprend rien.
Mais très peu de gens connaissent ça, c'est normal.
Donc, le chien, le pauvre, il envoie tous ses signaux il n'a pas de réponse en face.
Et très souvent, c'est pas le cas. Mais si vous apprenez à les détecter, et c'est d'ailleurs je vous invite à faire ce petit jeu-là, à essayer d'observer votre chien et de bien regarder ce qui se passe quand vous pensez qu'il est face à une situation de stress, ou même si vous commencez à stresser, de regarder comment se comporte votre chien. Alors, pour vous donner quand même quelques petits exemples, parce que si vous savez pas
ça peut rien dire du tout à certaines personnes, voilà.
Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de signaux d'apaisement. Par exemple, tourner la tête.
Mm-hmm.
Donc, éviter le regard, je tourne la tête à droite, à gauche. Ça, c'est un signal d'apaisement.
D'accord, oui.
Se lécher la truffe, c'est un signal d'apaisement très fort, qui est très difficile à observer parce que c'est très rapide.
Ouais.
Donc, très souvent, ça va être un petit coup de langue, hop, 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 et puis on ne le voit plus. Donc, tourner la tête, ça, on le voit bien. Bâiller, ça peut être un signal d'apaisement.
Oui, tout à fait.
Rester immobile ou faire des mouvements très très lents. Et ça, c'est très souvent d'ailleurs ce que moi j'ai rencontré en concours en obéissance, que la chienne, pour me calmer, faisait tout de manière très très lente ou restait immobile. Ça peut aussi être s'approcher d'une personne en arc de cercle. Très souvent, vous pouvez observer, d'ailleurs, vous pouvez le voir, même vous, si vous n'avez pas de chien, que vous croisez demain une personne qui a son chien. Généralement, les chiens, ils n'arrivent pas de front.
Oui.
Et encore moins quand il y a un deuxième chien en face. C'est-à-dire que généralement, ils vont, pour indiquer au chien qui est en face qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne cherchent pas la bagarre ou quoi que ce soit, qu'ils sont calmes, zen, ils vont arriver en arc de cercle en faisant le tour.
Oui, pour ne pas faire une action prédateur, en fait.
Voilà. En fait, une frontale, ce serait plutôt un chien très dominant, qui arriverait vraiment frontalement, queue levée, les oreilles bien droites, tout bien, bien sorti, le torse bien bombé, qui pour dire c'est moi, je suis là, attention. Mais voilà, des chiens qui veulent vraiment chercher à soit à se calmer, soit à dire je vous veux pas de mal, peuvent aussi déclencher ces signaux-là.
D'accord.
Voilà. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir un chien, c'est un bonheur fabuleux. J'ai la chance de pouvoir en parler aujourd'hui. Mais il faut aussi essayer de prendre le temps d'apprendre son langage. Parce que et vous verrez qu'il y a un univers qui va s'ouvrir à vous le jour où vous saurez détecter ce qu'il essaye de vous dire, qui sera fabuleux. Et ça ne peut que renforcer vos liens. Et vraiment, ce travail de compréhension et de relation entre chien-maître, c'est ce qui fait aussi que le chien va vous connaître.
Et oui.
Ah, ça veut dire aussi qu'il détectera la moindre petite erreur de comportement et que pour des chiens qui sont à fort tempérament, pourrait se glisser dans la faille et vous tester. Mais en attendant, c'est aussi ce qui va vous permettre de créer cette relation, que le chien va vous connaître sur le bout des doigts et que vous connaîtrez votre chien sur le bout des doigts. Alors apprenez à lui parler, apprenons à communiquer.
Bon, et ben merci beaucoup pour ce riche échange.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir. We'll be right back.
Ce mois-ci, c'est la consoude officinale ou grande consoude, de son nom latin Symphytum officinal, qui est à l'honneur, une plante médicinale utilisée depuis l'Antiquité. C'est une plante très commune en France, sauf en région méditerranéenne, que l'on trouve souvent dans les prés, au bord des cours d'eau, les lisières humides et les fossés, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Elle est haute de 30 à 90 cm et sa couleur varie de jaune pâle à mauve violet. Les fleurs sont pendantes, réunies en grappes en forme de clochette. Sa floraison est de mai à juillet. On utilise les feuilles et les racines séchées. Il est recommandé de ne l'utiliser que par voie externe, l'usage par voie interne étant controversé à cause d'un risque d'intoxication par les alcaloïdes pyrazolidiques qu'elle contient. Ceci pouvant par accumulation entraîner des lésions hépatiques et tumeurs du foie. Elle est parfois utilisée par voie interne, mais seulement sur quelques jours, et dans ce cas, contre-indiquée aux personnes souffrant d'insuffisance hépatique. L'usage externe ne présente pas de risque. Cependant, on ne dépassera pas 10 jours d'affilée de traitement en cataplasme et pas plus de 4 à 6 semaines par an, car les pyrolysidines sont absorbées par la peau. On fera également attention, dans le cas de plaies ouvertes, de limiter l'application à 3-4 jours. On peut la trouver sous différentes formes, en gel, en pommade, en macération ou en cataplasme. La consoude possède de fortes propriétés cicatrisantes par la présence d'allantoïne qui stimule le renouvellement des cellules. Elle est utilisée pour les cicatrisations difficiles, les plaies, les brûlures, les ulcères, les crevasses des mamelles, mais aussi dans le cas d'entorses ou d'élongations. Elle contribue aussi à la guérison des petites fractures des os dont elle stimule et accélère la soudure. On la conseille aussi contre les rhumatismes et l'arthrose. On peut se confectionner des compresses avec des feuilles de consoude hachées, appliquées sur les lésions ou appliquer une forme en gel ou en pommade. Attention cependant à ne pas appliquer les feuilles sur les plaies non nettoyées, car la peau qui va se régénérer très rapidement pourrait enfermer des corps étrangers dans la blessure. Donc quelques exemples pratiques chez les humains. La consoude, elle a prouvé son efficacité pour les lombalgies et les douleurs dorsales. Il y a une étude qui a été faite sur 120 personnes de 18 à 80 ans qui étaient atteintes de douleurs dorsales ou lombaires aiguës. L'application peut se faire soit en pommade par massage doux, soit en cataplasme sur les zones de douleurs aiguës, mais c'est moins pratique si la zone est étendue. Donc il y a aussi une étude allemande qui a été faite sur l'efficacité de la consoude auprès de centaines de patients souffrant d'une entorse à la cheville. Et les résultats ont montré que l'application d'un onguent à la consoude officinale était plus efficace qu'un gel anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc là, c'était le diclofénac, le gel Voltaren. Et pour soulager la douleur et l'enflure. Donc la consoude a également montré son efficacité pour soulager les douleurs causées par des ecchymoses, des étirements musculaires, des maux de dos et des douleurs articulaires. Alors chez les chevaux, donc si par exemple votre cheval est un suros, vous pouvez faire des cataplasmes de consoude ou des applications de pommade à la consoude. Vous pouvez faire la même chose si votre cheval a une entorse ou des gonfles. Dans le cas de blessures de harnachement, on pourra laver avec une infusion de soucis ou de millepertuis, et puis sécher et masser avec de la consoude officinale en pommade. Dans les cas d'abcès, de blême de la sole, donc pour ceux qui ne savent pas, la sole c'est le dessous du pied du cheval, ou de mauvaise pousse de la corne, on pourra appliquer des cataplasmes de feuilles de consoude officinale. Et la consoude, elle se révèle aussi utile pour l'arthrite. Dans le cas de douleurs dorsales, en plus de massage aux huiles essentielles, donc par exemple l'huile essentielle de lavande officinale ou de Gaultéry couché, vous pouvez faire des cataplasmes à la consoude sur les zones douloureuses ou présentant un gonflement ou une inflammation. Attention, pensez bien à vérifier que la selle est bien adaptée à votre cheval. En effet, les chevaux souffrent très souvent de problèmes de dos dus à des selles trop petites. Chez les chiens et les chats, on pourra bien sûr aussi l'utiliser pour les consolidations de fractures ou cales osseux. Et d'ailleurs, il existe un gel à base de consoude et d'autres plantes qu'on peut trouver sur internet qui s'appelle Siladog chez Labo Déméter et qui est directement prêt à l'emploi. Donc comment faire un cataplasme? Si vous avez des plantes fraîches, coupez les parties utiles en morceaux et si vous avez des plantes séchées, trempez-les dans de l'eau chaude. Coupez ensuite un morceau de compresse de la taille voulue et placez-le sur une bande de film plastique. Répartissez ensuite les plantes sur la compresse et mouillez-la dans l'eau très chaude. Attendez ensuite que ça tiédisse, essorez-le, puis placez le cataplasme sur la zone concernée. Vous pouvez ensuite le faire tenir avec une bande. On laissera le cataplasme plusieurs heures ou toute une nuit et on renouvellera si besoin. Alors, les interactions avec les plantes ou les compléments. On évitera l'usage simultané d'eucalyptus, car cette plante contient une enzyme qui peut théoriquement augmenter l'absorption des pyrolysidines. Et on évitera également l'usage simultané d'autres plantes qui contiennent les pyrolysidines, comme la racine d'orcanette, la bourrache, le patoir à feuilles de chanvre, la jacobée, le sénesson vulgaire ou le pétasite. C'était Morgane sur CFM dans Les hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec cette citation de Darwin Kingsley. Il n'existe pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, excepté les limites de votre propre esprit.
Des taxis pour les galaxies. à ta porte.